Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Avec les experts de la régalade pour vous retrouver comme tous les jours en fin de matinée depuis le début de cet été sur RTL. 11h-12h30, RTL vous régale avec... Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud, comment ça va les amis?
Mais magnifiquement bien.
Ça va être bien aujourd'hui parce que la côte languedocienne...
À 11 août.
Ah, il y a de quoi faire. Pardon?
À 11 août, la côte languedocienne.
D'accord.
C'est l'idéal.
Oui, c'est le paradis.
C'est les vacances.
Il faut expliquer pourquoi.
Mais pourquoi quoi?
Pourquoi c'est l'idéal?
Pourquoi c'est l'idéal?
Voilà.
Parce que moi, pourquoi c'est le 11 août, ça je ne peux pas vous le dire.
Moi qui ne cache pas mes origines belges, c'est plutôt Knock le 11 août.
Oh non! Ouh là là!
Alors
là,
allez, le Languedoc!
Là, on commence très très
fort. Qui fait partie de la région Occitanie, qui ne correspond à aucune réalité, ni humaine.
Ni historique, mais allez-y, continuez. C'est, du coup, c'est vrai que on va aller se balader sur la route de Carcassonne à Montpellier, en passant par Narbonne, Béziers, Sète. Un Languedoc qui est une terre incroyable de métissage depuis plus de 2000 ans. Ça a été une terre celte. Les Grecs se sont installés là-bas, du côté d'Agde. Les Romains, les Visigoths, les Sarrasins ont élu domicile au gré de l'histoire. Certains sont partis, sont rentrés chez eux, sont partis ailleurs. D'autres ont fait souche au fil du temps et de l'histoire. Et c'est un bonheur de parcourir cette route liquide fabuleuse qu'est le canal du Midi pour arriver sur le littoral. On se doit de parcourir les terres de Corbière et les terres viticoles de l'Hérault. D'ailleurs, le guide du Routard a édité un guide œnotourisme dans l'Hérault et c'est un bonheur absolu de découvrir tout ce qu'il y a à faire là-bas. Narbonne, il y a des halles fabuleuses. Montpellier, c'est une ville à deux visages. L'une historique avec l'Écusson, l'autre ultra-moderne avec Antigone. Et il est peut-être là la personnalité de ce Languedoc ancré dans l'histoire. C'est ce double visage qu'offre à la fois Maglone, qui est cette fabuleuse leçon d'histoire architecturale, grand vaisseau, ancienne cathédrale de 28 mètres sur 10, dans laquelle on se sent à la fois aspiré par le Très-Haut et écrasé par cette masse d'une sobriété absolue. Maglone, qui est le contrepoint idéal de la Grande Motte, ville créée dans les années 60 autour d'une grande pyramide de 15 étages, cité dédiée au soleil, à la nature et aux vacances, et les espaces verts qui occupent un tiers de la commune. Et ils sont rares, les habitants de la Grande Motte, qui quittent cette ville pour aller vivre ailleurs parce qu'on est bien là-bas. En fait, tout cela est une question de qualité de vie et le Languedoc en est le fier témoin.
Louise, dans un instant, vous allez nous parler d'un truc qu'on adore dans RTL vous régale. Ce sont les huîtres, évidemment. J'ai envie de dire, pour les huîtres, il n'est jamais trop tôt.
Oh pétache, sur les temps de taux, elle est pas mal.
Vous avez révisé un nombre de...
J'ai bossé. Hein.
Oui. Moi j'ai envie de vous parler de Sète ce matin, parce que c'est une ville déjà que j'adore, et puis plus particulièrement les temps de taux. C'est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie. C'est vraiment une petite mer intérieure séparée de la Méditerranée par une dune, un petit cordon dunaire. Forcément les spécialités culinaires sont liées au retour de pêche, que ce soit côté Méditerranée ou étant de taux. Donc au menu ce matin, je vais vous parler d'huîtres, de moules, de poules. Enfin bref, tout pour être...
Ça va être bien ça. Et dans la playlist d'RTL vous régale, ce matin, il y aura Oshi.
Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes.
Et même après, je t'aimerai. On plongera au cœur des années 80 avec ça. Car avant tout, nous sommes une famille. Sister Sledge, we are family. Ajoutez-y Kenny Loggins. Et le son des écoles de danse américaine avec Footloose, mais aussi Dua Lipa. La Madonna des années à venir, je pense. Bon, RTL vous régale, c'est parti jusqu'à midi et demi. Oui, je pense, je suis convaincu de ça. Ouais. Ah, Dua Lipa, je suis sous le choc. On démarre avec Patrick Bruel.
C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo. Quand il me la tenait, c'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle. À 4h30, à la porte de l'école, c'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, donner l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras. Et ça me rend plus beau puisqu'elle croit en moi. C'est cette petite main qui se perd dans la mienne et change mon destin en une minute à peine. C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent. C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir. Que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire. Que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir. Qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir. À la santé des gens que j'aime, c'est grâce à eux que moi je tiens. Ils sont dans mon oxygène, toute la lumière sur mon chemin.
Santé des gens que j'aime, Patrick Bruel, dont on attend l'album pour l'automne prochain avec beaucoup d'impatience. Patrick Bruel sur RTL. Dans un instant, les évidences de la région Languedoc. On vous en parle dans quelques minutes. RTL vous régale. On va vous parler des huîtres de Bouzigues. Ne bougez pas, on arrive après ça.
RTL vous régale. FR. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et c'est Louise qui nous parlait des eaux de la lagune de Thau, des eaux d'une richesse absolument incroyable et de ses retours de pêche. Louise.
Ouais, on est entre Bouzigues, Metz, Marseillan, et ces huîtres se distinguent de l'Atlantique par leur mode d'élevage. C'est un mode de collage, c'est-à-dire qu'on va coller les bébés huîtres sur des cordes qu'on va mettre en suspension. Alors pourquoi cette technique est spécifique? Pourquoi elle est différente des autres techniques d'élevage d'huîtres? Eh bien parce qu'il n'a pas de marée sur les temps de taux.
Et forcément.
Et donc, pour que l'huître puisse s'épanouir et développer sa chair et qu'elle ait cette mâche en bouche, il fallait reproduire donc le système des marées en les sortant et en les re-rentrant. Comme ça, quand on la sort, bah, l'huître, elle est un peu moins contente. Et quand on la remet dans l'eau, et bah, elle est contente, elle bouge.
Et toute guette.
Voilà.
Et toute guette. et donc, évidemment, quand il y a des huîtres, bah, généralement, pas loin. Il y a des moules,
bah, exactement. Tiens. Alors j'adore les moules, j'avais envie de vous en parler absolument ce matin. C'est des moules dites méditerranéennes qui sont beaucoup plus grosses et charnues que les autres. Elles sont même d'ailleurs un peu plus jaunes. Donc c'est vraiment, c'est pas les petites moules qu'on
c'est
a l'habitude.
C'est pas la moule de Bouchot, quoi.
Exact, c'est pas la moule de Bouchot. C'est pratiqué là-bas depuis plus d'un siècle. On en produit 3000 tonnes chaque année. Donc c'est une vraie culture, une vraie production là-bas, les moules. Et on les déguste toute l'année, mais l'été et l'hiver, ce sont les périodes idéales. Et alors là-bas, qu'est-ce qu'on fait avec les moules? On fait la brasse du cad.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh là là, ça, c'est, vous ne connaissez pas la brasse du cad?
Je ne connais pas du tout, je vous avoue, franchement.
Déjà, je trouve que rien que le nom, on a envie de festoyer.
Brasse du cad parce que braise?
Oui, si on faisait une petite brasse du cad.
C'est ça?
Hein, oui, braise, c'est le plat de moules qu'il faut déguster si vous êtes dans la région. Il faut commencer par réaliser une marinade la veille avec de l'huile d'olive, des herbes qui seront bien concassées. On ajoute un petit bouchon de pastis au choix, de noyer prat ou un petit verre de vin blanc. On laisse tout ça infuser et le lendemain, vous préparez un feu. Alors avec, comme on est dans le Languedoc, eh ben forcément, on va prendre du bois de vigne de cèpe, de serment de vigne pour faire ce feu. Et on va faire cuire nos moules sur le feu et arroser de cette fameuse marinade. C'est des recettes de famille. Chaque famille a sa recette un petit peu différente. C'est le plat qui fait qu'on se réunit. C'est le partage, c'est la générosité.
On ne peut que s'aimer.
On ne peut que s'adorer.
Parce
c'est qu'on y mélange de la saucisse.
Avec des braises.
Bien sûr.
Braises à mucho, forcément.
Ah oui, et après c'est moi qui...
D'accord.
Bah écoutez, j'essaye de me mettre à niveau. Hein.
Bien sûr. Les moules farcies, un mot, parce que quand même, ça c'est fantastique.
C'est fantastique.
Farcies avec de la chair à saucisse.
C'est ça, là-bas, elles sont farcies avec de la chair à saucisse. C'est pas simplement un beurre au persil à l'ail qu'on a l'habitude nous, de connaître quand on parle de moules farcies. On y met de la chair à saucisse, du persil, de l'ail, tout ça gratiné au four. Oh là là.
C'est pas une ébauche du bonheur de l'été. Je demande ce que c'est. Et on rappelle que l'ail...
C'est la vie.
Bien sûr. Jean-Sébastien, il y a du pâté dans le coin. Et pas n'importe lequel.
Absolument. Moi, c'est vrai que si on va un tout petit peu à l'intérieur des terres, il y a un pâté absolument remarquable qu'il faut goûter. C'est un peu spécial. Je ne vous le cache pas, c'est le pâté de Pézenas.
Pourquoi il est spécial?
C'est une merveille. À l'image de la tielle sétoise dont on parlera plus tard, cette recette de pâté nous vient d'Angleterre et des cuisiniers d'un certain Lord Clive, qui était gouverneur du Bengale. Il laissa la recette au boulanger de Pézenas en 1768 à son retour. Et en fait, c'est un petit pâté sucré-salé qui se compose de viande d'agneau, de graisse d'agneau, de rognon d'agneau, de zeste de citron qui sont finement hachés avec de la muscade, de la cannelle, du sucre roux. Il y a un petit tour de main derrière. Ça se mange tiède.
C'est bien ça, hein.
Il faut absolument le manger tiède parce que sinon la graisse d'agneau est figée. Donc là, c'est un poil indigeste. Mais quand il est bien tiède avec un petit verre de picpoul de piné, par exemple, ça, c'est pas loin du bon. Vous voyez, vous êtes sur la plage.
Pas très bien.
Vous mangez.
On sort le petit couteau.
Ah,
c'est ça.
Vous avez quelques moules qui sortent de l'eau et vous les mangez crus, vous les ouvrez.
Un filet de jus de citron.
Rien du tout. Vous faites gober des moules crues.
Ah, j'adore ça. Vous connaissez pas.
C'est fabuleux, ça.
Oh là là.
Mais sans citron, sans rien.
Ah non, c'est un de mes grands bonheurs. Mais moi, je mets du citron. Après, il y a
Moi, je mets du poivre, c'est tout.
Avec votre fameux moule.
Poivre. Ouais, ouais.
Et puis derrière, vous avez le petit pâté de Pézenas comme ça.
Comme vous dites.
On est bien.
Vous savez quoi? Et même après, je t'aimerai. Voici Oshi sur RTL.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon art et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirais mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent?
Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2021. 40 tubes sur un double CD. La bande son idéale de votre été 2021 sur RTL. Et même après, Je t'aimerai, c'était Oshi.
RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Nous sommes tous les trois réunis une fois de plus ce matin jusqu'à midi et demi dans RTL vous régale pour vous emmener à 7. On va vous épargner les blagues sur le fait qu'on est trois, qu'on part à 7, etc. On les connaît. On est au sud de Montpellier. 7 qui, par contre, ne s'est pas toujours écrit de la manière dont ça s'écrit aujourd'hui.
Non, jusqu'en 1927, ça s'écrivait C-E-2-T-E. Parce que Cetus, en latin, c'est la baleine. Et le Mont Saint-Clair, ressemblant à une baleine pour les marins, l'endroit a longtemps été appelé le Mont du nom du cétacé. Le Mont Saint-Clair, 182 mètres de haut, c'est la montagne mythique des Sétois. C'est un ancien volcan qui génère une force tellurique particulière. Et la vue depuis là-haut donne une belle idée de cette cité qui a toujours vu son destin lié à l'eau. Cette C'est l'île singulière, c'est une ville ouverte sur la mer qui doit son existence à la construction du canal du Midi. Des canaux en des rues du centre, ce parcours avec gourmandise, on peut passer de quartier en quartier au bout du canal royal. On va arriver à la Pointe Courte, qui est un quartier quadrillé de ruelles et de maisonnettes de pêcheurs, à l'origine où sèchent les filets et où mouillent encore les barques des pointus. Agnès Varda y tourna son premier film avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort, un film qui est considéré comme le film fondateur de la nouvelle vague. Toujours en rapport avec l'eau, à Sète, il y a les fameuses joutes qui sont des institutions incontournables, nées en 1666, lors de festivités données à la création du port. Depuis, ce sont les quartiers qui s'affrontent sur le canal sous les couleurs bleues et rouges, des couleurs devenues celles de Sète. 8 rameurs, un barreur, un hoboïste, un tambour, et les jouteurs sont sur la tintaine. L'idée, c'est de faire tomber à l'eau de l'adversaire, mais pas n'importe comment, parce que le règlement est extrêmement complexe. Il y a 20 articles très pointus. Ces joutes royales, c'est un spectacle extraordinaire, incontournable, qui a lieu autour du 20 août à la Saint-Louis, le saint patron du port de Sète. Et puis, si on descend un peu à côté, on va arriver du côté d'Agde.
Mais ouais, où nous attend Fabrice Mignot.
Au Cap d'Agde.
Il est là, il est le patron du restaurant.
Et là, je dis « Bonjour Fabrice Mignot
!» Ouais, comment on ne fait pas sur l'accent, hein.
On ne va pas le chauffer là-dessus, hein. C'est pas l'endroit, ni le moment, surtout sur les accents,
c'est
ça va.
C'est une private joke.
Le restaurant s'appelle « Nudisme interdit » au Cap d'Agde. Un mot sur l'intitulé du restaurant d'entrée de jeu, ouais, Fabrice.
C'est sûr qu'on n'est pas passé incognito avec ce nom-là, mais
j'imagine.
On avait une première affaire avec mon associé du côté de Le Cap, on avait récupéré un vieux panneau, un arrêté municipal avec écrit nudisme interdit dessus.
Ah, c'est
et
ça.
Quand on a pu se positionner sur ce deuxième établissement, forcément, on s'est dit il y a un lien. Et donc, on a quand même tous les jours des gens qui nous demandent s'ils viennent habillés ou à poil. On leur dit que c'est un restaurant.
Oui, c'est ça, parce que ça reste audacieux quand même. C'est un peu comme si vous aviez une enseigne qui s'appellerait « Je peux pas saquer les skieurs » en plein cœur de Val d'Isère. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais. Heureusement, là, c'est là où il faut faire les choses proprement au restaurant, sinon tu te fais allumer.
Alors, l'ambiance, c'est quoi à table ? C'est un peu des tapas à l'espagnol ?
Oui, on a une gamme assez large, mais on va dire que notre credo et ce qu'on essaie de suivre, c'est en effet des tapas à partager avec une connotation espagnole. Et après, nous, on est connus pour avoir un grand étalage à poissons, avec que des poissons de pêche, donc comme je dis, d'en face à chaque fois, qui sont cuits au four à bois. Et on les découpe devant les clients. Et après, pour un restaurant de plage, on a une attention particulière aussi sur les desserts. Donc avec des grands desserts à partager, on fait une pavlova géante, on fait mille feuilles géantes qu'on découpe devant les gens. Et après sur la viande, on est sur des viandes maturées, donc il y a la côte de bœuf qui choisit au kilo, du faux filet. On tourne autour de ce genre de plat et forcément après ça c'est la.
Et elles sont cuites aussi au feu de bois les côtes de
bœuf.
Oui,
toutes au four à bois. J'ai quasiment plus de j'ai un peu de feu vif pour les moules. On ouvre les moules et on est fini au four à bois. Mais l'idée, c'est d'avoir justement une cuisine quasiment 100% barbecue pour faire penser à l'été, quoi.
Fabrice, c'est important de dire, hein, parce qu'au cœur de l'été, comme ça, il faut le rappeler, c'est important de dire qu'il y a des restaurants en France sur des plages où on peut bien manger. Parce que c'est vrai que souvent, les restaurants de plage, je n'apprendrai rien à personne en disant ça, les spots sont jolis, la vue est belle, mais c'est pas forcément les meilleurs endroits pour manger. Et ça, c'est dommage. C'est pas le cas chez vous, hein.
Ben, enfin, nous, c'était notre faiblesse, notre force à la fois. Il y a 10 ans, quand on a commencé avec mon associé au premier restaurant, on s'est battu pour le tenir comme un restaurant non éphémère, on va dire classique, avec des équipes solides en place, avec de l'investissement sur le matériel et avec des prix qui restent cohérents. Et du coup, on a supprimé des choses comme il n'y a aucun produit qui n'est pas brut, c'est-à-dire qui n'est pas acheté frais. On a supprimé les congélateurs, à part pour les glaces, forcément. Donc, en fait, on est resté dans cette ligne qu'aurait tenu un restaurant, on va dire, en ville, bistronomique. Et on l'a gardé sur la plage, et c'est ce qui a fait la réussite du premier et celle du deuxième aussi, qui est de dire oui, c'est éphémère, mais oui, on fait les choses bien.
Pour rassurer tout le monde sur la fraîcheur des poissons que vous proposez à la carte au restaurant, quand les pêcheurs du coin ont de belles prises, ils vous appellent en premier lieu, ils vous donnent un petit coup de fil, ils vous disent j'ai ceci, j'ai cela, ça c'est plutôt bon signe.
Ça c'est bon signe, on a et les coquillages et on a les poissons. Les coquillages, on a la chance d'être nous à côté de deux centre ostréicole, celui de Le Cap et celui des Temps de Taux. Donc là, c'est des livraisons quotidiennes. Les moules, s'il n'y a pas des moules d'Espagne, c'est des moules de pleine mer, donc qui sont récupérées à 7. Le thon rouge, c'est celui de 7, donc c'est pêche raisonnée, donc avec une pêche à la bague, c'est-à-dire que chaque pêcheur a un nombre de bagues particulier pour le nombre de thon.
C'est important.
Donc nous, on triche sur rien, on l'explique même sur de la com, sur de la vidéo. Et le fait d'avoir l'étalage aussi, ça rassure énormément les clients, parce que l'étalage, il est au milieu du restaurant. Donc bon, on ne triche pas, quoi. Les gens, ils boivent le poisson, et c'est pas des poissons en plastique. Quoi. Ils prennent le poisson, on le cuit, et voilà. Donc du coup, voilà, finalement, c'est très simple quand on y pense. Ça paraît tout con de dire on achète des poissons, un pêcheur, on les cuit. Mais sur la plage, ça devient presque novateur.
Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est terrifiant quand même. Louise.
Et vous faites aussi la brasucade.
Ah, la brasucade, oui, ça c'est obligatoire. Moi, j'étais pas de ce coin-là, je l'ai appris. D'ailleurs, je l'ai appris avec un souvenir énorme où un ostréiculteur m'a montré ses produits. Et pour m'accueillir, il a récupéré une grille toute pourrie en métal. Il a cuit les moules dessus. Et moi, j'ai dit, oh putain, c'est génial. Et il a déglacé ça avec du Ricard. Et du coup, chez eux, c'est vraiment très important. Je dis chez eux parce que moi, je suis encore d'adoption. Hein. Et du coup, la brasucade, c'est ça, c'est plein d'herbes. On met l'huile, on va dire, au soleil, un peu à mariner. On finit au Ricard et on déglace le four à bois comme ça.
Fabrice, pour terminer là-dessus et pour prouver vraiment s'il fallait encore le faire, que vous faites des choses et que vous les faites sérieusement, vous faites un truc moi qui appelle en moi un souvenir d'enfance fantastique, ce sont les poulpes de roche. Vous savez, ces poulpes qu'on pêche dans des amphores.
Ouais, exactement. Donc on a là où c'est en direct, c'est que le mec, parce que là les poissonniers maintenant, les pêcheurs, ils deviennent high-tech, le mec il nous envoie les photos, il lève les amphores, donc en fait ça rassure, le poulpe à l'intérieur, il lève l'amphore. Il nous sort le bébé. Bon, le bébé, des fois, il est quand même gros et il fait un peu peur.
C'est beau bébé.
Il nous envoie la photo. Et après, nous, on choisit et on le cuit. Donc, la cuisson, là, il y a plusieurs légendes là-dedans. Mais nous, on le congèle, en fait. On congèle le poulpe pour casser la fibre. Ensuite, on le blanchit. Donc là, les grand-mères, elles disent qu'il faut mettre des bouchons de liège dans l'eau pour cuire le poulpe. Moi, je le fais, mais franchement, je sais pas à quoi ça sert.
Mais
je
le fais quand même. C'est le secret de grand-mère, c'est ce qu'on appelle.
Ouais, c'est ce qu'on raconte, ouais.
C'est pour le mauvais sort, à mon avis. Je le fais, voilà. Et après, on les finit au barbecue. On les finit au four à bois.
Ah ben tiens, c'est une belle fin, franchement. Le restaurant s'appelle Nudisme Interdit. Le problème, c'est quand on tape Nudisme Interdit sur Instagram, on se retrouve en face de toute une proposition.
Ouais, pas mettre Google d'images.
C'est au Cap d'Agde et ça donne vraiment envie, vous avez raison Louise. Fabrice Mignot, non seulement vous en parlez bien, mais en plus nous donnez vraiment envie de venir faire un petit coucou chez vous, okay. Ce qu'on ne manquera pas de faire. On vous souhaite un très bel été, j'espère que ça se passe bien au cœur de ce mois d'août et à très vite j'espère.
Merci Fabrice.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Fabrice.
RTL vous régale. En magasin. h 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Elle a terminé ses étirements, elle est en place, elle a le dossard dans le dos, le dossard de celle qui a relevé tous les challenges qu'on lui a proposés, soumis depuis le début de cet été sur RTL, dans RTL vous régale. Les petits challenges de Louise, prête pour répondre à la question de Françoise de Redon. Louise.
Je vous écoute.
Françoise adore les radis. Est-ce que vous avez une recette pour cuisiner le radis ou pour en faire autre chose que des radis à la croque au sel?
C'est bon quand même.
J'adore ça.
Hein.
Ça oui,
ah, moi aussi. Alors, vous pouvez faire deux choses, Françoise. Vous pouvez faire un gazpacho de radis et un velouté avec les fans. C'est-à-dire que vous allez nettoyer vos radis et mixer avec un bouillon de légumes, une petite cuillère à soupe de crème fraîche, un petit peu de balsamique, du sel et du poivre. Et puis, vous dégustez ça bien frais par ces journées d'été. Et puis, les fans, bien sûr, vous ne les jetez pas. Vous allez les blanchir. C'est-à-dire que vous les mettre deux minutes dans une grande casserole de bouillon salé, et puis tout de suite après les plonger dans un bain d'eau glacée, les essorer et mixer ça avec encore un petit bouillon de légumes, aussi un peu de crème, et comme ça vous avez déjà deux couleurs très jolies.
Vous êtes jolie, ouais. Gazpacho de radis velouté de fan.
Voilà.
Intéressant. Vincent est à Dunkerque, il prépare sa rentrée déjà. Il a peut-être abusé un peu des bonnes choses cet été. Avez-vous des astuces minceurs, mais des trucs qu'on n'a pas lus dans dans les magazines?
Des astuces minceurs, je vais pas vous dire, oui, il faut pas manger gras, on le sait. Mmh. Mais alors, j'en ai lu une. Et cette fois-ci, c'est moi qui vous demande si ça fonctionne ou pas. Je suis assez intéressée de faire un petit sondage. Il paraîtrait que le bleu n'est pas une couleur appétissante.
Quand vous dites le bleu, c'est juste la couleur.
La couleur bleue n'est pas une couleur appétissante et elle permet de réduire, du coup, naturellement l'appétit. Donc, si on peut peindre ses murs, sa cuisine en bleu, mettre des assiettes bleues, une nappe bleue, des serviettes bleues, il paraît que réellement ça fonctionne. Donc, visiblement, moi j'ai pas essayé, mais j'aimerais bien savoir s'il y en a qui connaissent cette astuce.
Mais c'est-à-dire que quand on sait que l'appartement de Jean-Seb rend hommage au bleu clin, on se dit ça ne fonctionne pas.
C'est pas gentil.
Je taquine. Alexandra est à Belfort. Une astuce.
Quand on veut dire que le bleu n'est pas une couleur appétissante, c'est dans la nourriture.
Mais j'avais compris ça. Non, mais je pense qu'elle parle vraiment de la couleur. Oui, si les murs sont bleus, c'est.
Mais ça, je suis moins convaincu.
Bah, dites-nous si ça fonctionne.
Bah, on en aimerait bien savoir.
Dites-nous.
Les murs sont bleus dans ma cuisine. Je ne sais pas comment vous le savez. Mais
parce que je suis déjà venu régulièrement déjeuner chez vous.
Est-ce que vous mangez dans votre cuisine?
Non, mais je cuisine dans ma cuisine.
Allez, oui,
il cuisine très bien pour le coup, je dois l'affirmer. Une astuce pour faire cuire un artichaut.
C'est toujours un peu long l'artichaut, puis on rappelle aussi que c'est détox, hein, fin de l'été, enfin mi-été. Vous pouvez le faire tremper dans une eau citronnée et après vous l'envelopper dans un film alimentaire et vous pouvez le faire cuire 10 minutes au micro-ondes.
Moi j'ai du mal avec les cuissons au micro-ondes.
Ah bah oui, mais attendez, vous voulez une astuce? Moi, je
oui, c'est une bonne astuce. Oui. Et je vous rappelle que pour lancer des challenges à Louise, vous continuez à envoyer vos SMS avec le mot régal, suivi de vos messages au 64 900. Et on vous souhaite bonne chance. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale, il s'appelle Luc Gomel. C'est le directeur du parc zoologique de Montpellier, qu'on appelle aussi le parc du Lunaret. Parce que oui, mesdames et messieurs, dans RTL vous régale, on ne parle pas que de nourriture. On apprend 1 million de choses. On s'y retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, ce sera juste après un des tubes majeurs des années 80 avec les Sister Sledge.
Just and I goes
We are family, les Sister Sledge ce matin sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. RTL, toujours avec vous.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, il est l'ambassadeur d'RTL vous régale, c'est Luc Gomel, le directeur du parc zoologique de Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, un parc fondé en 64 qui présente aujourd'hui environ 750 animaux de... Bon, quoi, il y a 141 espèces sur un espace de 80 hectares. C'est le troisième site touristique le plus visité dans le Languedoc-Roussillon quand même.
Oui, alors, ex-Languedoc-Roussillon, puisqu'on a fusionné avec Midi-Pyrénées et qu'on s'appelle Occitanie-Est de son vrai nom.
Oui,
maintenant.
Mais alors plus personne ne s'y retrouve, autant le dire. On va être honnête là-dessus.
Nous non plus.
Luc Gomel, quelle est la spécificité de votre parc ?
Alors, je crois que selon sa première caractéristique, c'est d'être gratuit.
Voilà, surtout.
Il n'y en a pas beaucoup en France qui soient gratuits, et il est gratuit pour les visiteurs, quelle que soit leur nationalité, et en fait, il est quand même à la charge de la ville de Montpellier. Mmh. C'est-à-dire que c'est la ville de Montpellier qui l'offre à sa population et à tous les gens qui viennent le visiter. Donc ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est qu'il est installé dans un très bel endroit, un très beau parc qui fait 80 hectares au niveau du zoo, mais il y a 40 hectares de bois en plus à côté, et une dizaine d'hectares d'une ancienne réserve naturelle qui s'appelle la réserve du Lez, qui complète, si vous voulez, l'offre écologique sur site.
Mmh. Luc Gomel, il faut quand même rendre hommage, vous dites que c'est à la charge de la ville de Montpellier, il faut rendre hommage à ce maire visionnaire que vous avez eu, qui était Georges Frêche, qui est à l'origine de ce zoo, qui est à l'origine aussi de tout le quartier d'Antigone, qui a transformé totalement cette ville de Montpellier. C'est lui qui a eu l'idée de ce zoo et d'en faire un zoo gratuit. Hein.
Alors, il a prolongé l'idée de son prédécesseur, parce qu'en fait, c'est le zoo, il date de 64, vous l'avez dit tout à l'heure. Et Frêche n'était pas encore maire à ce moment-là. Il a été maire dans les années 70. Mais il a amplifié, on va dire, la dimension du parc. Et oui, il a voulu qu'il soit à la hauteur de la ville qu'il rêvait de construire. Donc, ça fait 57 ans exactement, mais on est né la même année, le parc et moi. Le zoo accueille ses visiteurs sur ce site.
Luc Gomel, faut être précis quand on parle de zoo. Il faut s'expliquer. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui, comme moi d'ailleurs, sont pas forcément fans de zoos au départ. En tout cas, les zoos à l'ancienne, comme on pouvait les voir il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a une philosophie nouvelle, il y a une approche du bien-être animal qui est complètement différente dans les zoos d'aujourd'hui.
Alors, oui, c'est vrai, on est tout à fait en droit de questionner la nature de cet objet, le zoo, qui est pour certains une prison à animaux. Et c'est vrai qu'on a des animaux captifs, en fait, ils sont pas libres de circuler comme ils le font dans la nature.
Mais qui pour la plupart sont élevés en captivité, hein. Qui sont nés en captivité.
Oui, alors on ne prélève plus. Enfin, dans les zoos sérieux qui sont adeptes d'une charte, qui est la charte des zoos européens, on ne prélève plus évidemment dans la nature. Donc il y a toute une organisation de la reproduction entre zoos qui fait que quand des petits naissent dans un zoo, ils sont proposés en général ailleurs, et c'est pour chaque espèce qui est mise ce qu'on appelle en EEP, en plan d'élevage européen. Il y a un coordinateur qui gère la généalogie, qui évite la consanguinité et qui répartit les naissances dans les différents zoos qui participent à ces programmes-là. Donc les zoos se justifient leur existence en général en disant avant tout qu'ils participent à deux missions fortes. Un, la protection des espèces menacées, c'est-à-dire que dans la nature, il y a des espèces qui disparaissent. Là, on est en train de vivre la sixième extinction de masse du fait des activités humaines, du fait de la destruction des habitats naturels, du fait du braconnage, de la surpêche, de la chasse. Donc, il y a plein de choses qui font que les animaux disparaissent dans la nature. Les pesticides également, on s'aperçoit de leur impact actuellement sur les oiseaux à travers les insectes. Donc, il y a plein de raisons de s'inquiéter pour la faune sauvage. Et les zoos essayent de sauver, quand ils le peuvent, certaines espèces particulièrement menacées qui parfois même disparaissent dans la nature. et vise dans les programmes, c'est comme ça que c'est conçu, leur réintroduction future. Évidemment, ça suppose qu'on restaure les habitats naturels qui ont été dégradés.
Surtout. Ouais.
Donc ça c'est la première mission, si vous voulez, des zoos, la participation à la protection des espèces menacées.
Je vous interromps juste deux secondes. Ça veut dire que chez vous, il y a des animaux qu'on remet dans leur milieu naturel à un moment donné ?
Alors, il y a des animaux qui ont vocation à. Ils sont pas. Vous ne pouvez pas remettre directement un animal né en parc dans la nature. Ça passe par des phases de réacclimatation. Mmh. Et c'est la génération suivante, ou plutôt la suivante encore, c'est-à-dire N+2, qui a des chances, elle, d'être réintroduite. Les animaux élevés par l'homme en milieu captif, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre pour se mettre à distance et intervenir le moins possible, ces animaux-là ne sont pas capables de se retrouver du jour au lendemain dans un milieu hostile, avec des prédateurs, des parasites et l'obligation de trouver une nourriture que nous, on leur apporte tous les jours dans leur gamelle.
C'est-à-dire qu'en gros, ils n'auraient aucune chance de survie.
Ouais.
Exactement. Donc c'est pour ça que la réintroduction est quelque chose de long, de coûteux. Ça s'est fait avec quelques espèces, ça se fait avec beaucoup de précautions, avec beaucoup d'énergie.
Avec quels animaux, par exemple ?
Il y a des oryx qui ont été réintroduits. Il y a le cas des vautours également, qui avaient disparu de certaines régions, qui sont réintroduits. Donc il y a quelques succès comme ça qui sont mis en avant par les parcs qui ont participé à ces réintroductions. Nous, on travaille sur le fond de cette affaire, c'est-à-dire à conserver une génétique susceptible d'être réintroduite un jour. Voilà, on est modeste dans nos ambitions, il faut l'être. Ça supposera de toute façon des financements qui, pour l'instant, ne sont pas prévus, même pas au niveau des États.
Surtout quand on sait que le parc est gratuit et qui donc offre aux gens qui ne peuvent pas partir en vacances un très joli lieu exotique de balade.
Voilà, alors effectivement, c'est le revers de la gratuité, c'est-à-dire que les parcs privés peuvent se permettre de prendre une partie de l'argent qu'ils gagnent avec les entrées des visiteurs pour faire ce qu'on appelle du financement des programmes in situ, c'est-à-dire dans les pays où les animaux sont menacés. Ouais. Nous, en tant que parc public, c'est l'argent du contribuable qui fait fonctionner la machine et on ne peut pas détourner des centaines de milliers d'euros pour aller alimenter des programmes de survie des guépards en Namibie ou je ne sais où.
Ça a le mérite d'être clair, voilà.
Voilà, non, il faut l'être. On subventionne une dizaine d'associations dans ces pays-là, mais notre contribution, elle est symbolique, elle est modeste, elle est réelle, mais il faudrait être capable, et on s'y attache par différents systèmes, il faut être capable de l'amplifier. On pourrait faire appel aux dons des visiteurs, puisque le parc étant gratuit, beaucoup de gens s'étonnent de ne pas avoir à payer leur entrée et seraient capables d'aider à financer des programmes.
Ça se fait, hein, genre, si vous êtes heureux, vous êtes content de votre visite, estimez la valeur de votre visite, vous y mettez ce que vous voulez, quoi.
Exactement. Après, il faut être capable de rassembler cet argent, de le comptabiliser et dans la comptabilité publique. Pour une collectivité locale, c'est toujours un peu compliqué.
Luc Gomel, directeur du parc de Montpellier, le parc du Lunaret. Mille merci pour votre intervention dans cette émission. Je précise qu'il faut 2 à 3 heures hein, pour compter une balade complète. En famille, c'est ouvert de 9h30 à 18h30 et c'est un des très beaux endroits exotiques, un lieu de balade incontournable si vous êtes dans la région cet été. Merci Luc, à bientôt.
Merci à vous.
1984, Footloose, Kenny Loggins sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale. Santé.
RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, mesdames et messieurs, le bon marché d'RTL vous régale. En ce matin, nous allons filer du côté du marché de Narbonne.
Oui, le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué.
RTL vous régale, numéro 1 sur le rap.
Puisque hier j'ai fait un succès avec une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix de Charles Trenet ?
C'était Trenet déjà.
Voilà. Oui. Et bien là j'ai décidé d'aller dans la ville de Trenet. Et ça c'est ma chanson préférée de Trenet. Le vieux piano de la plage, parce que c'est quand même le mec qui a inventé le swing dans la chanson française. Ce fou chantant qui était Trenet. Il a... La Narbonne, c'est une ville de 55 000 habitants qui s'étend entre la Méditerranée et le canal de la Robine. Il y a l'abbaye de Fontfroide, il y a la cathédrale gothique, il y a le palais des archevêques qui garde la piété des Narbonnais jusqu'à la mer. Et puis, sur le cours Mirabeau, il y a les halles centrales. Et les halles centrales de Narbonne, de 7h du matin à 13h, c'est un bonheur absolu. Vous imaginez presque 70 commerçants et artisans qui sont là, qui proposent depuis le début du XXe siècle toute la richesse du Languedoc. Le vin, la fougasse aux fritons, quelques sardinades comme ça qu'ils font de ci, de là. Tout ça se fait sous une halle de style baltard qui est faite de métal, avec des portes de pierre, avec une toiture majestueuse, des verrières. Tout cela apporte des jeux de lumière, de couleurs qui illuminent les étals. Et quand on est jeune à Narbonne, quand on sort de boîte, on va petit déjeuner aux halles de Narbonne. On vient se manger un peu de gras pour évacuer ce qu'on a pu éventuellement faire comme excès la nuit. Quand les parents viennent plus tard faire leurs courses, les anciens viennent boire le café ou prendre l'apéro. On vient pour des poissons qui sont magnifiques, qui sortent de l'eau. On vient pour des viandes maturées. On vient pour des fromages affinés. On vient pour les fruits, pour les légumes. C'est une vraie famille, les halles de Narbonne. Les commerçants, après la fermeture, mangent ensemble, ils font la fête, ils dansent, ça discute, ça vit. C'est ça qui fait le charme de nos plus beaux marchés en France. C'est pas le côté surgelé et inhumain de la grande distribution. C'est très bien la grande distribution pour aller acheter le papier toilette, pour aller acheter les produits courants, les packs d'eau, mais le frais, c'est sur les marchés.
Vive
les
marchés.
Une halle qu'il faut visiter, c'est les halles de Narbonne, parce que c'est vraiment l'authenticité absolue du sud-ouest de la France.
Astrid est à Vannes et je pense qu'elle partage votre avis sur les marchés. On va lui poser la question d'ailleurs. Astrid, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue bonjour. Sur RTL. Est-ce que vous faites le marché? Parce que Jean-Sébastien disait, le frais, c'est sur les marchés qu'on le trouve. C'est là qu'il faut acheter les légumes et les fruits. Est-ce que, très honnêtement, si ce n'est pas votre cas, vous nous le dites, mais est-ce que vous pratiquez, vous, les marchés de plein vent, comme on les appelle?
Moi, je fais les marchés, beaucoup, mais surtout pour le poisson.
D'accord. Ah bah oui, à Vannes, j'imagine.
Plus que pour les légumes et les fruits.
Forcément.
ça veut dire que vous allez nous proposer du poisson pour le défi frigo dans quelques instants?
Eh bah oui, exactement.
Et pas n'importe lequel?
Du calamar.
C'est pas facile, le calamar. Ouais, c'est pas facile.
C'est très intéressant.
C'est intéressant, mais à part farci ou frit, vous voyez, s'il n'y a pas 36 000 trucs, on va voir dans quelques instants les deux recettes les plus originales de ce matin dans RTL vous régale à base de calamar. Je rappelle, Astrid, qu'on joue cette semaine pour un week-end au domaine de la Closse. Un très bel hôtel 5 étoiles, membre des Relais et Châteaux. C'est en Lorraine, au milieu des 7 collines de Montenac, au cœur du pays des Trois Frontières. Je sais pas si vous connaissez l'endroit.
Non, absolument pas.
Parce que là-bas, le chef Benoît Potvin va vous accueillir, si vous êtes la gagnante de cette semaine, au Oka, le restaurant gastronomique de l'hôtel. Il y fait une carte absolument géniale avec des produits d'exception, des produits de la région qu'il revisite avec toute la passion qui le caractérise. Il y aura un tirage au sort vendredi et quoi qu'il arrive, votre prénom sera dans le chapeau pour le tirage au sort. On se reparle de ça dans quelques instants. Vous bougez pas, Astrid?
Très bien, merci beaucoup.
Du calamar, c'est l'objet du défi frigo de ce matin sur RTL.
RTL vous régale.
Vous écoutez RTL, il est midi. Ah, les infos vous sont présentées tout de suite par Guillemette Franquet.
La crise sanitaire n'est pas derrière nous. La mise en garde du président de la République en préambule du nouveau Conseil de défense sanitaire. Emmanuel Macron le préside en visioconférence depuis le fort de Brégançon. Le chef de l'État a prévenu le Covid sera encore là pour plusieurs mois. Pour y faire face, la solution reste la même, vacciner tous les Français. Quant au pass sanitaire, nous n'avions pas le choix, a réaffirmé le président. Les territoires d'outre-mer ont eux aussi été évoqués par le chef de l'État. Il parle d'une situation dramatique en Guadeloupe et en Martinique. De nouvelles mesures devraient donc être bientôt prises. Un couvre-feu en Polynésie, un durcissement du confinement en Guadeloupe seront discutés. Lui aussi a pris la parole ce matin. Première conférence de presse de Lionel Messi au Parc des Princes. L'attaquant argentin a dit son immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le président du club a lui évoqué Kylian Mbappé. Selon Nasser El Khelaïfi, ce joueur compétiteur n'a désormais plus le choix. Mbappé doit rester au PSG. Les obsèques du prêtre tué ce lundi auront lieu ce vendredi à 14h30 à la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. La cérémonie sera présidée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, et l'évêque de Luçon, François Jacolin. Un hommage rendu à l'homme d'église tué de plusieurs coups à la tête. Ce matin, le pape François a adressé ses condoléances à la communauté religieuse du père Olivier Maire. Le contrôle technique sera obligatoire pour les deux roues motorisées. À partir du 1er janvier 2023, il faudra les emmener au garage tous les deux ans. Un décret publié aujourd'hui entérine une mesure de l'Union européenne. En Algérie, les flammes continuent de ravager le nord du pays. Les feux sont pour la plupart d'origine criminelle, selon le ministre de l'Intérieur algérien. Ils ont fait 42 morts, dont 25 militaires. En Grèce, là aussi, l'île de Bé continue de lutter contre les flammes. Depuis 9 jours, de violents incendies font rage, notamment dans le Péloponnèse. En Afghanistan, les talibans gagnent du terrain. Ils ont pris en une semaine 9 des 34 capitales provinciales. Dans le nord, à Kunduz, des miliciens, des policiers et des soldats se sont rendus impuissants face à leur progression. En France, aujourd'hui, un temps estival, du soleil partout, avec un léger bémol, des voiles nuageux de la Bretagne au nord de la Lorraine. Les températures seront tout de même chaudes pour une bonne partie de la France. Vous pouvez compter 28 à Auxerre, Vichy et Tarbes, un peu plus de fraîcheur sur la façade ouest avec 24 à Rennes et Biarritz, comptez 25 degrés de Paris à Metz. Les courses, elles ont lieu à Saint-Malo à 20h15 et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 12, l'As, le 15, le 7, le 2, le 9 et à la dernière minute, l'As Goubaroc. Il est midi et 3 minutes sur RTL. Tout de suite, la suite d'RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Merci beaucoup Guillemette. RTL vous régale qui est de retour avec le défi frigo tout de suite.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et à Vannes, il y a Astrid qui nous propose du calamar. Et je le disais, hein, c'est pas un truc évident le calamar, parce que j'imagine que comme tout le monde, Astrid, de temps en temps vous en cuisinez. Alors il est farci, il est à la plancha, il est frit, ça va jamais beaucoup plus loin.
Il est surtout à la plancha avec du chorizo et du citron.
Ah, c'est bien ça.
Ouais. C'est bon.
Alors, à la plancha avec du chorizo et du citron. Et là, je vois le regard de Louise Petit-Renaud.
Qui est en train de défaillir.
qui est en train de se dire.
Bah, au moins, vous aimez le chorizo, donc je
bon
pas
sang,
trop.
Bon sang, elle n'a pas dit ça. Si, si, elle l'a dit. Parce que je pense qu'elle avait prévu un peu de chorizo dans sa recette. Qu'à cela ne tienne, vous avez 1 minute 30 pour peut-être changer de recette si vous le souhaitez, parce qu'on va commencer avec Jean-Sébastien. Ça, c'est un vrai défi, Louise. Jean-Seb, à vous l'honneur, 1 minute 30. Louise, je vous reviens dans un instant.
Alors, c'est vrai, Astrid, que le problème du calamar, c'est que soit on le cuit très vivement quelques minutes, soit on le cuit lentement et longtemps pendant, allez, on va dire 30-40 minutes. Moi, je vais choisir la deuxième solution. Je vais vous faire préparer un courbouillon, parce que on fait rarement le calamar comme ça. Courbouillon, carottes, céleri, ail, bouquet garni et sel. Dès que ça boue, vous plongez vos calamars dedans et vous les laissez cuire 30-40 minutes. Vous les laissez refroidir à tout petit bouillon. Hein. Vous laissez refroidir dans l'eau et puis là, vous allez les couper en languettes, en lamelles. Vous allez en faire un carpaccio de vos calamars et puis vous allez laisser refroidir tranquillement. Éventuellement, vous les compressez entre deux assiettes pour qu'ils restent bien plats. Pendant ce temps, vous allez faire une vinaigrette. Jus de citron vert, huile d'olive, vinaigre de mangue et puis des baies roses que vous écrasez grossièrement dans vos mains. Vous mélangez cette vinaigrette, vous allez répartir la vinaigrette sur vos calamars. Et ensuite, vous épluchez une mangue, vous découpez cette mangue et vous la coupez en tranches fines que vous étalez comme ça sur votre carpaccio de calamar et vous avez une salade très fraîche, très originale, pleine de saveurs sucrées-salées pour une entrée que vous allez... c'est une belle entrée d'été, c'est calamar en salade à la mangue.
Ouais, c'est bien joué, carpaccio de calamar en salade à la mangue.
Voilà.
Voilà, on est d'accord là-dessus. Astrid ?
Oui.
Face à Jean-Sébastien, il y a Louise. Elle a eu 1 minute 30 pour se reprendre. Est-ce qu'elle y sera parvenue? Sinon, au pire, vous faites le coup d'hier, vous nous refaites le coup. Vous prenez une courgette, vous la coupez dans le sens de la longueur, prenez votre calamar, vous le flanquez dans la courgette et la messe est dite.
Je ne vous ai rien fait.
Louise, relevez ce défi improbable.
Oui, mais Astrid, je ne vais pas changer ma recette parce que j'ai prévu, grâce à vous, j'ai prévu de faire cette recette ce soir. Elle me fait envie, donc je pense que je vais vous faire envie. Alors, vous allez faire des lignes au calamar. Vous allez couper un piment doux en lamelles assez fin. Ensuite, vous allez faire cuire vos pâtes, cuisson des pâtes classiques, hein, eau bouillante avec une pincée de sel. Prenez une poêle, ajoutez un filet d'huile d'olive. Vous allez faire chauffer de l'ail et du persil. Vous allez jeter vos lanières de piment, faire revenir un petit peu tout ça pour apporter un petit peu de peps, à peu près 3-4 minutes. Vous coupez votre fameux chorizo, il est bien là, en dés, et vous le rajoutez dans votre poêle. Et qu'à la fin, vous mettez vos calamars coupés en petits morceaux à feu vif pendant 2 minutes, mais attention, pas plus, sinon votre calamar sera trop dur. Vous mélangez tout ça avec vos linguines que vous allez faire revenir dans votre poêle avec votre préparation. Et je peux vous dire, vous allez vous régaler.
Et ben voilà, et tout ça en moins d'une minute trente. Bravo. Alors évidemment, Astrid, va falloir choisir. Je ne sais pas si la recette de Louise vous aura surprise, parce que évidemment, vous utilisez souvent du chorizo dans le calamar à la plancha. Cela dit, il y a des pâtes avec. C'est pas inintéressant non plus. Dites-nous et surtout, expliquez-nous pourquoi vous choisissez une recette plutôt qu'une autre.
Alors, les deux sont très tentantes.
C'est vrai.
Mais je crois que j'ai envie d'été et encore plus de fraîcheur. Et je pense que je vais prendre le carpaccio. Même si les pâtes ont l'air vraiment délicieuses, mais l'été m'attire.
Victoire de Jean-Seb ce matin avec ce carpaccio de calamar. C'est vrai que c'est une recette assez... c'est très estival, c'est une bonne idée. Ah, il n'a pas volé sa victoire. On va être beau joueur, Louise.
Comment ?
Merci.
Je disais, quel genre ! Ah, c'est honteux.
Je ne vous parle pas.
C'est très mauvais esprit, ça. Très
non, mais vous essayerez quand même, Astrid, parce que c'est vraiment beau, mes linguines.
J'essaierai, bien sûr.
On n'en doute pas une seule seconde. On va vous offrir un guide du routard de votre choix et une montre RTL également, oui, qu'on va vous envoyer rapidement du côté de Vannes. Et puis peut-être que vendredi, on vous rappelle pour vous dire que vous partez au domaine de la Clause, au cœur de la Lorraine. Je vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci d'écouter RTL vous régale. On vous embrasse, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 Again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you.
Again sur l'album Future Nostalgia, le second album de Dua Lipa, c'est un des plus gros succès internationaux de ces derniers mois. Dua Lipa sur RTL.
RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et dans cette dernière demi-heure d'RTL vous régale, on se fait plaisir, vous le savez, depuis le début de l'été. On vous conseille, entre amis que nous sommes, nous vous conseillons sur les produits à rapporter de chacune de nos destinations. Nous sommes dans le Languedoc, oui, sur la côte languedocienne. Que rapporter à la maison ou à offrir aux amis ou à la famille ou juste pour se faire plaisir? Il y a pas mal de choses. Il y a les vins du Languedoc. Jean-Sébastien, vignoble immense.
Alors, je pourrais vous dire, achetez le guide du routard Œnotourisme dans l'Hérault et vous aurez un panorama de tout ce que vous allez pouvoir voir et goûter de ces vins du Languedoc et notamment de l'Hérault. C'est un vignoble absolument immense qui s'étend le long du littoral méditerranéen, de l'Eucate à l'ouest jusqu'à Nîmes et à la Camargue à l'est. Ça couvre les contreforts des Cévennes, ça va jusqu'aux portes de Carcassonne. Aude, Gard, Hérault, y a une diversité de paysages, une mosaïque de terroirs entre mer et montagne, sous une influence à la fois méditerranéenne, qui est matinée d'influence un peu de ce qui vient des Cévennes et de la montagne. Vous avez toute la palette de vins rouges, blancs, rosés, doux, naturels, effervescents, des vins qui, après avoir été assimilés à la viticulture de masse, font l'objet d'un travail constant depuis plus de 30 ans qui va vers la qualité, qui tire vers le haut tous ces vins. Évidemment, ce sont les Grecs qui ont implanté la vigne au 9e. Les Romains ont continuer à poursuivre le travail, et au Moyen-Âge, Il y a eu une période de grande prospérité sous l'influence des monastères et des abbayes. Le commerce du vin a continué à s'étendre à partir du 18e et puis jusqu'à aujourd'hui. Et cette reconnaissance des vignobles languedociens en 49 avec le VDQS qui a été le premier signe de qualité et puis ensuite avec l'AOC a permis véritablement le renouveau et de sortir de cette image de vin coupé. Parce que souvent, les vins languedociens étaient coupés avec les vins de l'Afrique du Nord. Et c'est un bonheur de découvrir ces corbières, de découvrir les vins qu'on trouve dans tous les terroirs. Moi, j'adore, comme ça, de se poser. Il y a notamment les vins de notre camarade Jean-Yves Chaperon, qui fait des choses absolument magnifiques. Ça fait partie des immenses vignobles qu'il faut découvrir. Il y a aujourd'hui parmi les plus beaux vins du monde, que ce soit en Fitou.
C'est dingue parce que nos parents buvaient du Fitou, ça piquait, c'était des trucs qui rendaient les limites aveugles. Aujourd'hui, c'est fantastique. Aujourd'hui, c'est fantastique. Les corbières, moi j'ai une passion pour les corbières. Il y a des choses absolument formidables dans la région, c'est bien d'en parler. On parlait du naturisme interdit au Cap d'Agde il y a quelques minutes. Et pourtant, Louise, il y a ce petit biscuit sablé.
Oui. La Zézette de 7. Vous connaissez ?
Alors, j'ai assez peu d'expérience en la matière.
En Zézette ?
De 7.
Eh bien, écoutez, c'est un petit biscuit sablé parfumé à l'arôme de vanille qui est à base de farine, d'huile d'olive et de vin rosé. C'est un gâteau donc sec que vous pouvez rapporter pour votre famille, vos amis, qui se conserve longtemps et qui est très bon trempé dans votre café en fin de repas.
La Zézette de 7.
Ça va bien avec la Grisette de Montpellier également, qui est un petit bonbon inventé qui remonte quand même au XIIe siècle. Hein, une petite binoire à base de réglisse et de miel et qui est toujours une des spécialités de Montpellier, ou le berlingot de Pézenas, qui est là une petite spécialité. Vous savez que dans toutes les villes, on trouve comme ça à peu près des berlingots. Là, c'est une spécialité de 1968.
Et, confiserie, il faut préciser.
Confiserie, oui, absolument. Et la famille Boudet, depuis 1968, fait ce mélange de sucre chauffé à 160 degrés. Et puis, on met des petites des couleurs à l'intérieur qui ont du goût au sucre, parfum coloré. Et ces petits berlingots sont très particuliers, ils sont très jolis à découvrir.
Alors, il y a évidemment un incontournable dans la région, c'est la Thielsétoise.
Ah oui, qu'est-ce que c'est bon ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Thielsétoise, c'est une spécialité, donc, comme son nom l'indique, de la ville de Sète. C'est une délicieuse petite tourte à base de poulpe et de sauce tomate légèrement relevée. C'est les retours de pêche comme on en parlait au début de l'émission. Et il me semble que nous avons Sébastien au téléphone.
Eh bien il vous semble bien Sébastien, voilà, de la Fabrique à Thiel. On part à Sète en direct dans RTL Voyal. Bonjour Sébastien.
Et bonjour à vous tous, merci de m'accueillir.
Bienvenue, c'est un plaisir. Faites ça depuis 3 ans, vous, la Thielsétoise.
Alors oui, je me suis mis à fabriquer des Thiels. Je suis un autodidacte de la Thiel, en fait, depuis 3 années, c'est vrai.
Faut expliquer qu'avant, vous étiez dans la restauration. Mais aujourd'hui, vous vous consacrez vraiment à ça. Vous êtes champion du monde depuis 2 ans, de la macaronade aussi.
Oui, c'est le plat type de la ville de Sète. C'est vrai que chaque année, au Brajol, bien sûr. Alors chaque année, on fait le championnat du monde et j'ai la chance, malheureusement avec la Covid, de conserver le titre 2 ans de suite et j'ai gagné aussi médaille de bronze à l'Hérogourmand cette année. Donc,
Sébastien, pour les non-initiés, parce qu'il y en a sans doute quelque part en France qui nous écoutent, cette macaronade au Brajol, explication, de quoi s'agit-il ?
Alors la macaronade au Brajol, déjà on va commencer par la Brajol, ou alors qu'on appelle également la louette sans tête. C'est une fine tranche de paleron en fait qui est coupée, aplatie, et à l'intérieur on la garnit de poitrine de porc fumée ou normale, et de persillade en fait, du persil, de l'ail, et on referme comme une petite, c'est une petite paupiette en fait. Et en fait, elle va venir infuser et cuire dans la macaronade et donner ce goût si particulier à la macaronade du dimanche qu'on fait ici en famille.
Mais qu'est-ce que c'est la macaronade, justement ?
Alors, la macaronade, ce sont des pâtes, déjà, des penne regate, qu'on accompagne d'une sauce tomate dans laquelle on fait revenir normalement le croustillo de porc, donc la poitrine de porc, de la saucisse de Toulouse et la brajole. Donc, normalement, il y a 2 ou 3 viandes qui sont cuites pendant environ 3 heures dans la sauce tomate, pas plus parce qu'après les viandes s'en vont. Et ensuite, on sert ça, bien sûr, avec les pâtes. On mélange les pâtes et on accompagne de parmesan ou d'emmental.
Voilà, on a bien compris que c'est une recette d'inspiration italienne.
Ici, tous nos plats sont d'inspiration italienne.
Bien sûr.
Ah oui, la tielle, complètement. Ça vient de la ville de Gaeta, oui, bien sûr.
En Italie, on fait ça souvent. On utilise la sauce tomate dans laquelle les viandes ont cuit, ont infusé même. On les déguste avec les pâtes en entrée. Et puis, on mange la viande, la petite paupiette, accompagné d'une salade, ça peut se faire comme ça aussi.
Bah pourquoi pas, oui, si on mélange, on la garde quand même dans la sauce, parce que c'est bien bon, puis on est gourmand dans le coin, donc c'est comme ça qu'on la mange.
Voilà, il y a des plats marqueurs comme ça, un peu partout en France, qui révèlent l'ADN d'une gastronomie. A7, c'est un incontournable marqueur de la ville. Ça vaut combien une petite tielle en ce moment chez vous ?
Une petite tielle, c'est aux environs de 3,50 euros, en fait, puisque bon, c'est garni de poulpe, comme le soulignait Louise tout à l'heure.
Ouais.
Et la recette originale, en fait, moi je mets aussi de l'olive noire, qui est vraiment le respect de la tradition. Donc c'est le poulpe, l'olive noire et la sauce tomate relevée, garnie dans la pâte, comme une pâte à pain en fait, et c'est une petite tourte cuite au four.
Génial.
Et ce qui est formidable avec la tielle, c'est qu'elle est encore meilleure les jours qui suivent. C'est-à-dire qu'on la réchauffe et elle perd pas de son goût.
Alors oui, normalement quand on la fait bien... C'est vrai qu'elle est pas mal, mais c'est aussi très très bon quand ça sort du four et que c'est tiède, je vous le dis.
Ne dit-on pas, une tielle vaut mieux que... petite astuce, pour avoir les meilleures tielles, il faut arriver tôt le matin, ça faut le savoir.
Alors oui, c'est vrai que nous, à 7, tous les fabricants de tielles, avec mes collègues, on les cuit, moi je commence à 4h le matin, parce que c'est vrai que quand on ouvre nos boutiques à 8h, il faut avoir les tielles qui sont déjà faites, et ça prend énormément de temps, parce que c'est de l'assemblage en fait. On a une pâte qu'on garnit, on en remet une autre dessus, on fait des petits quignons, enfin ça passe au four, c'est assez long, et puis pour garnir nos magasins et nos étals, c'est le matin tôt qu'il faut venir, c'est vrai.
Merci mille fois en tout cas Sébastien, la fabrique à tielles, c'est à 7, c'est une jolie reconversion je trouve.
Ouais, c'est super, je me régale. C'est un très bon métier. Je suis très content de le partager avec vous, en tout cas.
C'est un bonheur de vous en entendre parler, en tout cas.
Et un gros bisou à la famille Bentata. Les ZZ, c'est mes copains, ils sont à 7, ils sont juste à côté de moi.
Ah, on les embrasse.
On vous salue. Bonne journée, très bel été à vous.
Merci à vous.
À bientôt. On fait un petit pas de côté avec Jean-Seb. D'ici quelques instants, on file pas loin de Narbonne.
On va aller très loin dans le temps.
On remonte le temps.
Ouais.
Allez, à tout de suite sur RTL. Les infos vous sont présentées tout de suite par Guillaume Franquet.
Nous ne faisons que passer dans l'ombre sous la lumière, sans prendre le temps de s'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
prendre le temps de s'arrêter.
Help Myself, c'était Gaëtan Roussel sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, on va inverser le cours de l'histoire. On va remonter le temps avec Jean-Sébastien pour ce petit pas de côté qui nous emmène pas loin de Narbonne, mais...
On part presque à 11 km de Narbonne, mais on part presque 11 siècles en arrière. Direction Fontfroide, une des plus belles abbayes de la région, dans un site enchanteur, sauvage. Un environnement chaotique, celui des Corbières. Fondée à la fin du XIe siècle par les moines bénédictins, Fontfroide est rattachée à l'ordre cistercien en 1145. Elle devient rapidement une des plus riches abbayes de la chrétienté. Bastion d'orthodoxie catholique face au pays dit cathare. Cette abbaye a donné un pape, Benoît XII, quelques cardinaux romains. Ses biens furent vendus à la Révolution. Fontfroide est devenue une propriété privée au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de découvrir ce lieu de quiétude, de beauté et de culture. C'est un lieu qui est propice, caché au creux du moutonnement des collines, encerclé, défendu par un torrent, abreuvé par la Fons Frigida qui a donné son nom à l'endroit, protégé à quelques distances par des pitons fortifiés. Mais la jeune communauté qui a mené une existence obscure là-bas s'est presque oubliée. Même la dynastie qu'il a fondée l'avait oubliée. Parce que le catharisme qui était dans le coin s'avère, par ses implications sociales, comme une terrible menace, à la fois pour Rome et pour le pouvoir en place, parce que il menaçait la société médiévale en refusant même le principe de vassalité. Alors les cathares expliquent que la présence du mal coexiste entre deux principes. Il y a le bien que Dieu a créé, c'est l'esprit, et le mal, c'est l'enveloppe charnelle de l'homme. Ils nient tous les sacrements, ils croient à la réincarnation, et puis jusqu'au fait de devenir parfait. Les parfaits représentant une caste sacerdotale, tout de noir vêtu, ils partaient prêcher sur la route les seuls évangiles. Et ils menaient aux yeux de tous une vie exemplaire de pauvreté et d'abstinence. Quelque part, depuis plus d'un an, nous sommes tous devenus un peu cathares, malgré nous, vivant d'abstinence de beaucoup de choses. Mais Dieu merci, le vaccin est là. Et grâce à cela, nous allons pouvoir revivre.
RTL vous régale.
Vignoté.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Nous étions sur la côte languedocienne ce matin depuis 11h et j'espère que vous y avez passé un aussi bon moment que nous avec Louise et Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette émission ?
Que je vais manger des moules.
Et de la ZZ de 7.
Éventuellement.
N'oubliez jamais que partout en France, on fait des choses formidables. Que si vous y restez dans l'Hexagone cet été, on va continuer jusqu'à la fin de cet été à vous donner les bonnes adresses, les bons plans, les bons producteurs et les bons produits. C'est l'ADN d'RTL vous régale chaque jour. On est de retour demain d'ailleurs dès 11h.
Oui.
On va où demain ? Pas tous ensemble. Hein.
Je sais pas, c'est vous qui avez la réponse.
On prend la direction de Troyes.
Ah bah tiens.
Et c'est de la champagne.
Et c'est formidable.
Et
vous avez vu, c'est réfléchi. Parce que on passe pas parfois. 3 x 7.
Oh non, j'y crois pas.
21.
Une heure et demie d'émission. Clôturée comme ça. Quel énorme gâchis. On vous embrasse. On vous souhaite une délicieuse journée. Profitez de cet été. Vous écoutez RTL. Il est